Place Info.
Bonsoir à la une, Emmanuel Macron qui déplore une crise politique en Europe. Trois ministres à Rouen après l'explosion de l'usine Lubrizol, l'offensive turque contre les Kurdes, le ménage à la tête de Renault. C'est dans les informés avec Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, avec Chloé Morin, politologue, directrice de projet internationaux chez Ipsos, avec Marie-Virginie Klein, vice-présidente de Willa, association de créatrices d'entreprises et accélérateur de mixité dans l'innovation, avec Éric Delannoy, vous êtes économiste, président fondateur du cabinet Tenzing. Bonsoir et bienvenue à tous les quatre. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. L'Europe traverse-t-elle une crise politique? Le président Emmanuel Macron, qui recevait à déjeuner à l'Élysée le Premier ministre hongrois Viktor Orban, a éprouvé le désir de revenir sur le rejet hier de la candidature de Sylvie Goulard au poste de commissaire européen au marché intérieur, en dramatisant quelque peu le vote contre des eurodéputés.
Nous vivons un moment de l'Europe extrêmement important et sensible. Il y a une nouvelle commission, un nouveau Parlement européen qui se mettent en place et qui affrontent tous deux une crise politique que nous ne devons pas laisser s'installer et se développer. Je crois dans l'unité. Je pense indispensable que des solutions soient trouvées et je crois indispensable d'avoir une commission forte qui puisse porter des projets ambitieux.
Franck Dedieu, cette crise politique dont parle le chef de l'État, c'est la faute aux eurodéputés?
Les eurodéputés, d'abord, ça fait partie de leur mandat, ils sont libres. Effectivement, il y a eu des opérations politiques en sous-main, et c'est un camouflet pour Emmanuel Macron. Mais je crois qu'il faut déjà dépasser cela. Il y aura pas un blocage institutionnel, probablement. La question, c'est de savoir qui va remplacer Sylvie Goulard. Et surtout, la question est de savoir si on se place du point de vue de l'intérêt de la France. Est-ce que finalement, c'était de l'intérêt de la France d'avoir Sylvie Goulard? Elle a tout le temps dit qu'elle était favorable au dépassement des nations. Elle voulait surtout pas avec une sorte de zèle être représentante de la France. Non, elle était au-delà de ça. Elle était aussi quand même très 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 encline à favoriser une vision allemande, fédérale, austéritaire de l'Europe. Donc la question, c'est de savoir au fond, est-ce que le prochain commissaire sera plus enclin à défendre les intérêts français? Et là où c'est peut-être un mauvais coup, juste pour terminer, c'est que il est possible que le portefeuille soit beaucoup moins large et que le numérique soit plutôt, qui est à mon avis la question fondamentale pour la commission à venir, eh bien soit plutôt aille plutôt vers une autre commissaire, la commissaire danoise qui s'appelle Vestager.
C'est un gros portefeuille. Hein. Je vois ça, marché intérieur, industrie, défense, espace numérique, culture, doté de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Chloé Morin, le chef de l'État, il avait l'air moins colère froide qu'hier. Hein.
Oui, mais encore, il dramatise énormément quelque chose dont on pourrait dire qu'il participe du fonctionnement normal de la démocratie.
C'est un vote contre, mais c'est un vote contre.
Il aurait pu rejeté, prendre. Même, hein. Oui, mais il aurait pu prendre acte et dire bon, je vais nommer une autre personnalité. Enfin, je veux dire, la possibilité du vote contre a toujours existé. C'est peut-être le fonctionnement antérieur où il y avait moins d'affirmation d'autonomie des parlementaires. qui était moins normal.
Ce qui est étonnant, c'est quand on... C'est un moins godillot, peut-être, aujourd'hui.
En tout cas, c'est vrai que quand on compare, du coup, la situation française, où on a une discipline de vote des majorités, etc., avec la situation du Parlement européen, c'est intéressant. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder ce qu'en dit la presse européenne. On voit dans le Financial Times qu'il parle de revanche politique sur Emmanuel Macron, que les parlements européens ont saisi l'opportunité de remettre Emmanuel Macron à sa place. La Repubblica parle de gifles retentissantes. Donc on voit que c'est une interprétation. Je ne sais pas dans quelle mesure le fait que Emmanuel Macron ait tout de suite réagi et très fortement, ça n'a pas finalement donné l'impression que c'était amplifié l'impression que c'est un camouflet personnel pour lui.
Absolument.
Et que, à l'inverse, il n'avait pas dramatisé.
Éric Delannoy, c'est un camouflet pour le chef de l'État. C'est un péché d'arrogance, comme certains l'ont dit dans l'opposition.
On dit beaucoup de termes très hystérisants, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'en gros, maintenant, à chaque événement, c'est une grande crise, c'est de l'arrogance. Enfin, moi, je pense qu'effectivement, il y a une surréaction. Je pense qu'aussi, c'est une erreur de proposer Sylvie Goulard. On pourra en reparler.
Dites que c'est une erreur, vous.
Oui, c'est une erreur parce que moi, je reste très attaché à l'idée européenne. Je reste très attaché au programme d'Emmanuel Macron, qui notamment voulait une forme d'exemplarité. Et quand on dit qu'on ne veut plus nommer un ministre parce qu'elle est sous le coup d'affaires, c'est pas pour aller la proposer comme commissaire européen en risquant de déconsidérer la fonction. Donc pour moi, c'était une erreur de faire ça. Donc en fait, il a cherché le camouflet qu'il a reçu. Donc vous voyez, j'hésite pas à l'évoquer. Maintenant, c'est une péripétie politique, quoi. Ouais. Faut pas exagérer. J'ai entendu dire qu'il était isolé. Bah, il est isolé parce que le mouvement dans lequel sont les députés En Marche, ils sont 107 sur 750. Donc oui, forcément, il est isolé quand il y a une coalition de tous les extrêmes, notamment, pour pouvoir faire en sorte de proposer ce camouflet. Quant à l'interprétation des journalistes étrangers, enfin, là encore, enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est un camouflet, c'est une revanche. La semaine dernière, il y avait un journaliste néerlandais qui disait que Macron, c'était le nouvel empereur de l'Europe. Je pense qu'il ne faut pas lui donner plus d'importance que ça.
Marie-Virginie Klein, il y a quand même une volonté, pour rebondir sur ce que dit à l'instant Eric Delannoy, de Emmanuel Macron, de récupérer ce leadership européen, et c'est plutôt raté pour l'instant.
Bah, c'est un camouflet d'autant plus fort pour lui qui fait depuis toujours de l'Europe un sujet central pour toute sa politique, et que surtout il avait obtenu beaucoup de victoires pendant le premier round de son combat. Il a réussi à installer Christine Lagarde à la BCE, il a réussi à faire en sorte d'écarter le candidat du Parti populaire européen au profit de l'actuelle présidente.
Manfred Weber,
voilà,
qui s'est vengé.
Il a sous-estimé la vengeance politique suite à cet événement. C'est devenu l'homme à abattre.
Est-ce que ça remet en cause un leadership
de Delannoy?
Le G7 de Biarritz avec le leadership qu'il a pris à ce moment-là me semble incommensurablement plus signifiant qu'un camouflet politicien dans lequel on voit un jeu politique avant tout. Il n'y aura pas de blocage institutionnel derrière ça. Ça va se réguler. Moi, je suis d'accord pour dire que c'est un jeu démocratique habituel. Il n'a pas réussi cette fois-ci, bah, il réussira une prochaine fois. Allez. Faut-il en donner plus d'importance?
On va rester là-dessus, rassurez-vous, mais on marque une pause à 20h10 sur France Info pour le rappel de l'info avec vous, Jules Dekis.
La Turquie ne stoppera pas son opération militaire dans le nord de la Syrie malgré les menaces, annonce ce soir le président Erdogan. Il fait fi de la pression des Européens et des Américains notamment. Donald Trump autorise ce soir des sanctions contre Ankara mais sans les activer. L'offensive turque lancée il y a 3 jours contre les Kurdes a déjà entraîné une centaine de morts d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme et 100 000 déplacés selon les Nations Unies. Le préfet de Seine-Maritime annonce sur France Info attendre de tout derniers éléments pour pouvoir lever les restrictions sur les agriculteurs, ceux qui se trouvaient sous le panache de fumée après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Leurs fruits ou légumes sont invendables, pareil pour leur lait. Pierre-André Durand affirme que toutes les analyses effectuées jusqu'à maintenant ne relèvent rien d'anormal. Un agent de la DGSE est mort lors d'un entraînement dans le Loiret près d'Orléans lundi. C'est ce qu'annonce le ministère des Armées, on ne l'a appris qu'aujourd'hui. D'après les informations recueillies par France Info, il a reçu une balle après un tir accidentel. Il avait 26 ans. Ce type de drame est rarissime. Le dernier remonte à 10 ans lors d'un exercice avec des explosifs. Les ONG saluent une victoire pour le climat, pour la préservation des forêts tropicales. Le Conseil constitutionnel déboute le groupe Total. Il voulait s'opposer à une loi imposant des taxes sur l'huile de palme. Les députés ont exclut cette matière première d'un dispositif visant à favoriser les biocarburants. Le géant pétrolier estime que cela remet en cause la viabilité de sa bioraffinerie de la Med dans les Bouches-du-Rhône. Et puis dans moins d'une demi-heure, c'est le coup d'envoi entre la France et l'Islande à Reykjavik. Match comptant pour les éliminatoires à l'Euro 2020 de football.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Crise politique ou pas en Europe pour Marie Toussaint, qui est eurodéputée Europe Écologie Les Verts sur France Info ce matin. Eh bien, ce vote à l'encontre de Sylvie Goulard était une question d'éthique.
C'est surtout une bonne nouvelle pour la démocratie en Europe de se dire que on refuse à la fois qu'il y ait des conflits d'intérêts, et donc on avait déjà refusé les propositions des commissaires roumaines et hongrois, mais aussi de se dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi quand on est un responsable politique européen. En tant que parlementaire européenne, on doit être vigilant, on doit défendre l'intérêt des citoyennes et des citoyens européens. Donc c'est plutôt une victoire, je dirais, du Parlement européen et de la démocratie européenne.
Chloé Morin, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, ça y est, ça s'exprime en Europe, cette démocratie.
Oui, c'est exactement
ça. Puis ça allait dans le mur. Hein.
Et ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine manière, Emmanuel Macron est victime d'un mouvement ou d'une vague dont qu'il a lui-même porté. C'est-à-dire, d'une part, l'exigence d'exemplarité et de transparence qu'il a porté pendant sa campagne et c'est qui vrai. Aujourd'hui, voilà, les députés le prennent au mot et c'est une vraie revendication de l'opinion par ailleurs. Et d'autre part, il est victime en quelque sorte du fait d'avoir fragmenté le jeu politique en Europe.
Ouais.
C'est-à-dire que aujourd'hui, aucun groupe ne peut prétendre à la majorité. Les deux groupes qui dominaient auparavant et qui bloquaient un peu le jeu et avec qui on pouvait s'entendre et négocier ce genre de choses, bah, ils ne sont plus ultra dominants.
Vous voulez dire que ça risque de devenir un peu ingérable tout ça ou
Non, mais ouais. c'est en tout cas l'expression d'une, ouais. d'une fragmentation, d'un renouvellement
Moi,
des pratiques
je
et du jeu.
Je pense qu'il faut, il faut pas aller trop vite dans une sorte d'interprétation pro-démocratique de ce coup de force. Il se trouve que les parlementaires européens, pardon de vous le dire, mais ils ont du pouvoir au cours de leur mandat qu'à ce moment-là. Après, au moment de se dire, on avalise ou pas la proposition de la Commission européenne.
La Commission fait ce qu'elle veut le reste du temps.
Alors, justement, là, à mon avis, les parlementaires ont joué, à mon avis, à bon droit leur rôle. Mais le problème, c'est qu'après, c'est terminé pendant tout leur mandat. Pratiquement, je voudrais pas non plus être désobligeant à l'égard des parlementaires. Après, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un combat entre la Commission, qui, pour le coup, est assez fragilisée. Et hier, je crois que Emmanuel Macron a fragilisé, sans le vouloir, von der Leyen, en disant, mais je comprends pas, elle m'avait assuré que tout le monde était d'accord. Donc, quelque part, elle se retrouve, elle aussi, fragilisée. Et il reste, finalement, l'intergouvernemental qui va peut-être prendre le dessus. C'est-à-dire, moi, je l'espère, le retour, quand même, des États-nations dans l'organisation et le fonctionnement de l'Europe. Et d'ailleurs, mon voisin a dit, assez justement, il a dit, mais arrêtons de dire qu'il perd son leadership.
Éric Delannoy, c'est votre voisin.
Oui. Éric Delannoy, pardon. Oui. Il disait, finalement, arrêtons de croire qu'il perd son leadership depuis hier, etc. Il n'y a pas de leadership. Mais il n'y a pas de leadership en Europe. Justement, c'est une organisation qui est faite pour qu'il n'y ait pas de leadership. C'est son génome d'organiser son propre impuissance politique. Et lorsque vous dites, finalement, c'est en contraste avec ce qui s'est passé à Biarritz, où là, il a su s'imposer, oui. Mais il a su s'imposer parce qu'on n'était pas dans une institution européenne. Il s'est imposé parce qu'on était dans un format classique, j'allais dire presque gaullien, des États-nations qui parlent autour d'une table.
Ouais, alors pour boucler ce sujet, hein, y a-t-il un plan B parmi les... C'est vous qui parliez de ça tout à l'heure, hein, je crois, Franck de Dieu. Y a-t-il un plan B hein, pour qui sera commissaire du coup pour la France? Parmi les noms qui ont circulé, il y a eu Ségolène Royal ou encore, je vous vois lever les yeux au ciel, Éric Delannoy ou encore Florence Parly. La ministre des Armées, je lui ai posé la question hier dans le 18-50 France Info. Écoutez cette réponse très brève.
Il ne faut jamais croire les rumeurs. Quand on regarde le passé, elles sont toujours avérées fausses.
Voilà, Marie-Virginie Klein, quel est le bon profil?
Bah en tout cas, ce qu'on peut quand même souligner, c'est que c'est l'exigence de mixité qu'impose Emmanuel Macron au sein de la Commission européenne. Hein. On sait que c'est quand même pas toujours très facile de trouver des femmes qui ont des profils suffisamment solides et avancés pour être candidates à ces postes-là. Là, Sylvie Goulard, était une femme. Il y a des dossiers sur elle qui empêchent sa candidature. Il en propose. Enfin, il y a deux noms qui circulent. Il y a aussi des noms d'hommes, hein, évidemment, qui circulent. Mais c'est vrai que c'était une belle victoire. Christine Lagarde, Ursula von der Leyen, plus maintenant soit Florence Parly, Ségolène Royal et Sylvie Goulard. C'est un peu dommage qu'on ne parle pas plutôt de cette belle victoire et qu'on se remette à parler uniquement des affaires et de politique politicienne.
Ouais, c'est pas faux.
Chloé Morin, le prochain profil va compter ou finalement ça n'est qu'anecdotique?
Non, je pense que malheureusement, dans ces cas-là, les profils des commissaires européens comptent relativement peu quand on regarde dans chaque... Je parle sur le plan de l'opinion publique et de leur notoriété.
C'est clair.
C'est rarement des gens qui sont des personnalités très connues dans leur propre pays et qui occupent la scène politique. Ouais. Généralement, c'est... Et même les députés européens, ils disparaissent à Bruxelles et ils ne... font pas partie, ils ne vivent pas dans le débit.
Jusqu'à présent.
Éric Delannoy, oui.
Non, mais jusqu'à présent, enfin, justement, le projet que portait Emmanuel Macron, c'est de faire en sorte qu'il y ait une infusion, en fait, du projet européen dans la nation, en faisant en sorte qu'il y ait un rapprochement des députés européens qui devenaient des professionnels de l'Europe, par rapport à avant, où c'était plutôt des recalés de la politique française, pour pouvoir faire en sorte de rapprocher les citoyens des Européens. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir une nouvelle nomination. Ce qui serait très grave, c'est que le nouveau choix soit également contestable. responsable. Alors là, pour le coup, on rentrerait dans une vraie crise. Donc là, il faut pas se tromper. Et dans 15 jours, je suis convaincu qu'on n'en parlera plus.
Allez, il va falloir attendre encore quelques jours donc pour connaître l'heureuse élue, je le dis au féminin, pour faire plaisir à Marie-Virginie Klein. Nous faisons un détour par Rouen. Pas moins de 3 ministres ont fait le déplacement ce matin. Elisabeth Borne, écologie, Agnès Buzyn, santé, Didier Guillaume, agriculture, afin d'installer le comité pour la transparence et le dialogue après l'explosion de l'usine dont nous avons parlé longuement sur France Info. Aujourd'hui, l'usine Lubrizol. Ce comité qui a laissé sur leur faim les habitants, les élus, les médecins, notamment au sujet de la protection des populations. Didier Guillaume s'est voulu, lui, rassurant.
Ce matin, le directeur général de l'ANSES a annoncé que, à ce stade, au vu de tous les prélèvements qui ont été faits, de toutes les analyses qui ont été faites, rien n'était anormal et tout était, je crois, il a dit, 10 fois en dessous des normes. C'est la raison pour laquelle, cet après-midi, le préfet, en relation avec la Direction générale de l'alimentation, va prendre les décisions de lever de séquestres et notamment, vraisemblablement, de remettre le lait en commercialisation puisque les analyses sont les meilleures.
Alors ça, c'était Marie-Virginie Klein, c'était ce matin, hein, mais il faut attendre encore hein, le feu vert du préfet de Seine-Maritime. Marie-Virginie, la communication dans cette affaire, on va dire, c'était quand même la grande faiblesse.
Bah, c'était oui, ça a été vraiment une grosse faiblesse et puis reconnue par tous. Et d'ailleurs, en instaurant ce comité-là de la transparence quand même 15 jours après, c'est quand même assez long.
Trop tard.
C'est pas très tôt. Je trouve que c'est pas très tôt, c'est pas très réactif. Mais en l'instaurant, en tout cas, ils font l'aveu qu'ils n'avaient pas suffisamment mis au cœur de leurs décisions et de leurs annonces l'écoute des habitants. Et c'est quand même un sujet qui est très émotionnel. Et là, ils avaient répondu avec des arguments très 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 rationnels qui allaient à l'encontre totale de ce qui était audible par le public.
Avec un comité qui va se réunir. On va en parler dans un instant. Restez avec nous. 20h20 sur France Info. Tout d'abord. Ce rappel de l'info avec vous, Jules De Kiss.
Les autorités turques annoncent ce soir la mort de 10 civils dans une ville frontalière avec la Syrie. 35 blessés également après des tirs d'obus par une milice kurde depuis le territoire syrien. En 3 jours depuis le lancement de l'offensive militaire par Ankara, les combats ont fait une centaine de morts d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. 100 000 personnes ont déjà fui la zone en guerre d'après les Nations Unies. Pour le syndicat indépendant des commissaires de police, désarmer des policiers soupçonnés de radicalisation est une précaution qui s'impose. Son président était sur France Info tout à l'heure. Plus question d'avoir des états d'âme et de se voiler la face, explique-t-il. Il approuve la mesure prise contre 2 fonctionnaires en Île-de-France ces derniers jours. Retrait de l'arme de service et enquête administrative quelques jours après l'attaque à la préfecture de police de Paris. Nouvelle manifestation massive ce soir dans les rues d'Alger. Le 34e vendredi de mobilisation pour dénoncer la présence au pouvoir du clan Bouteflika et des militaires. Au lendemain de l'arrestation d'un de leurs meneurs, les protestataires dénoncent toujours la tenue d'une élection présidentielle début décembre. 20 fusils d'assaut, 200 armes de poing saisies. Le parquet de Rennes démantèle un réseau de trafic d'armes international. Elles arrivaient en France depuis la Serbie et les États-Unis. Des dizaines de perquisitions ont été menées ces 3 derniers jours. 100 de personnes interpellées. Le défenseur latéral Lucas Hernandez restera finalement sur le banc de touche ce soir pour le match contre l'Islande. Coup d'envoi à 20h45. Il est trop juste physiquement. Il est remplacé par Lucas Digne. Olivier Giroud sera bien titulaire à la pointe de l'attaque. Islande-France, un match décisif dans la course à la qualification pour l'Euro 2020 de football.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Il va donc falloir attendre le feu vert du préfet pour vendre le lait dans la région de Rouen. Un agriculteur sur France Info a expliqué tout à l'heure qu'il devrait de toutes les façons attendre lundi pour vendre son lait, même avec un feu vert, parce que les administrations sont fermées le week-end et il n'y aura pas ce feu vert donc avant officiellement. Il sera donc indemnisé, Éric Delannoy, pendant ce temps-là, mais il va devoir jeter son lait. Il y a un petit côté uberois quand même dans tout ça, non ?
Il y a un petit côté uberois parce qu'on est dans une crise qui n'était pas anticipable et qui est compliquée à gérer. Enfin, quand on disait tout à l'heure qu'il y a une grosse faiblesse de communication reconnue par tous, c'est normal, j'ai envie de dire, parce que de toute façon, il n'y a aucune bonne communication dans le symptôme dans lequel on se trouve sur la société actuelle. Si on communique trop tôt, nécessairement on donne des approximations. Si on communique trop tard avec du silence, on alimente la donnée populiste, parce que vous savez, en 86 il y a eu Tchernobyl et il y a etc. Donc complotiste.
Complotiste.
Et ça c'est pas simple. Ça veut dire qu'en gros il y a une exigence aujourd'hui de vouloir répondre à des certitudes que tout le monde se croit en droit d'avoir, alors que c'est impossible d'afficher une certitude. Ouais. Ça veut dire que j'ai pas dit que c'était qu'il y avait pas d'anxiété anxiogène, enfin de caractère anxiogène. Simplement, c'est très compliqué de mettre en place cette cellule de crise. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire dans un moment où à court terme, de toute façon, communiquer est compliqué, et à moyen terme, on ne sait pas quoi évaluer. Aujourd'hui, ils ne savent pas comment ils vont évaluer les risques sanitaires. Donc, le temps, c'est un ennemi dans ces cas-là. Et moi, je trouve qu'au contraire, le comité qui est mis en place est un comité qui est une très bonne idée, parce qu'il prend l'intégralité des parties prenantes. Et c'est le seul moyen, en termes de transparence, que l'on puisse réussir à faire en sorte que tout le monde s'y retrouve.
Alors, France Info, la radio s'est déplacée notamment au Petit Quévilly, près de Rouen, pour voir comment les populations locales vivaient le risque industriel. Chloé Morin, les habitants que l'on a entendus sur France Info à la radio étaient très inquiets, compliqués d'éteindre ces polémiques, et surtout de rassurer les gens.
Oui, et de toute façon, la parole publique, on est dans un contexte de discrédit de la parole publique et de la parole de l'ensemble des autorités. Alors certes, les scientifiques sont un peu moins touchés, par exemple, que les fonctionnaires, et eux-mêmes sont un peu moins touchés que les responsables politiques. Mais on est dans un climat où la règle, c'est la suspicion et c'est la présomption de culpabilité. L'idée que il va falloir donner l'État doit donner des gages en permanence, apporter des preuves. Et que, en l'absence de communication, c'est le doute et les craintes qui s'installent. Une chose qui a été assez peu notée et que je trouve intéressante, c'est que, au final, l'État n'est pas responsable de l'usine en tant que telle. Oui. On n'a pas entendu l'entreprise elle-même communiquer. Et c'est peut-être là.
Elle a peu communiqué.
Elle a mal communiqué.
En fait, l'État s'est très vite retrouvé en première ligne. Et donc, à tirer la foudre, en fait, y compris sur des responsabilités qui n'étaient pas nécessairement les siennes.
Pas le choix.
Je ne sais pas s'ils n'ont pas le choix. Dans d'autres cas, les entreprises peuvent se retrouver à rendre des comptes.
L'État s'est senti un petit peu esselé. Et c'est vrai que ce comité de suivi, il a le mérite d'exister. Effectivement, il a plusieurs parties prenantes, c'est très bien, mais j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est pas déjà trop tard? Est-ce qu'il n'y a pas un péché originel qui a été, commis par la préfecture, et pas véritablement à cause des personnes de cette préfecture? C'est que sa vocation, Marie-Virginie avait parlé d'arguments rationnels. La vocation de la préfecture, c'est le maintien de l'ordre. Donc, ce n'est pas véritablement de communiquer pour rassurer la population, c'est le maintien de l'ordre. C'est pour ça que vous avez quand même la sirène qui est déclenchée, je dirais, 4 ou 5 heures après. 4 ou 5 heures après, c'est-à-dire vous rentrez dans une sorte d'angoisse permanente de la part des habitants remet en cause la parole de l'État. Et j'ai peur de vous dire, c'est peut-être un peu tard. Donc la question est de savoir si, au fond, il y a, à mon avis, sans être trop technique par rapport à la science administrative, mais il y a un travail à faire sur redéfinir ce que doit être la préfecture, à la fois le maintien de l'ordre, mais aussi apprendre à communiquer. Alors, pour justement couper court aux rumeurs.
Qu'est-ce qui aura manqué, sans doute, de transparence? C'est ce que disait Mathieu Orphelin, le député écologiste ancien La République En Marche de Loire-Atlantique, sur France Info ce matin.
On nous dit que ces produits-là étaient moins dangereux, etc. Il faut qu'il y ait toute la transparence là-dessus, et il faut aussi qu'on accompagne les citoyens et les acteurs, qu'on explique. Il ne s'agit pas de simplement juste mettre la liste en ligne. Il faut effectivement maintenant aller plus loin, et puis qu'on ait ces espaces nouveaux de médiation pour que l'ensemble des citoyens et des acteurs puissent être éclairés sur la dangerosité, sur ce qui a pu se passer, sur les risques à court terme, sur l'absence de risque ou pas à moyen terme. C'est tout ça qu'il faut mettre en place.
Marie-Virginie Claire, on a vu plusieurs ministres se rendre sur le terrain, il y a eu la publication des rapports techniques, c'est assez précis en plus, et Mathieu Orphelin nous dit finalement ça manque de transparence. On n'en finit pas.
Je ne sais pas s'il veut, transparence ou peut-être sincérité. Je trouve que la question centrale, c'est comment quand la confiance est rompue, parce que sur ce sujet-là, depuis 2 semaines, la confiance est rompue, comment on la rétablit? Donc la seule solution qui a été trouvée, ça a été de remettre de la transparence. D'ailleurs, on l'a appelé comité de transparence. Hein, tout est dans le wording. On a remis au centre les habitants, les élus, les syndicats, tous les acteurs. Mais moi, je pense que à un moment, c'est surtout les preuves concrètes qui vont rétablir la confiance. Et notamment là, si on finance les pertes des agriculteurs qui ont été liées à cette crise-là, ce sera des preuves d'amour concrètes.
Oui, plutôt que des 50 millions d'euros.
Je pense qu'à un moment, c'est l'action qui remplace, qui rétablit la confiance.
Je suis tout à fait d'accord. Malheureusement, ça va se faire. La confiance va être rétablie. Elle doit être sonnante et trébuchante au bénéfice des agriculteurs,
oui,
et pas forcément à remettre une couche de communication. J'ai envie de vous dire, c'est déjà trop tard.
Allez, 20h28 sur France Info. Nous marquons une pause et nous retrouvons dans quelques minutes pour la suite des informés. Nous rejoindrons Mathieu Mondoloni, notre envoyé spécial sur la frontière turco-syrienne. À tout de suite.
Trop bon, j'adore. Hé, hey, monsieur le cuisinier, il vient d'où ton poulet?
De France, Chloé. La volaille française à la cantine, moi je dis oui.
Oui, 91% des Français souhaitent de la volaille française à la cantine. Sondage Opinionway pour l'APVF janvier 2018.
La volaille française, moi je dis oui.
Bon, mes derniers chantiers sont finis, j'ai envoyé toutes les factures à mes clients. Maintenant, je dois tout ressaisir en compta avant lundi. Tu peux m'aider?
Oui, j'ai déjà toutes les infos. Laisse, je gère avec ton expert comptable.
Tu stresses jamais, toi?
Non, je fais du yoga en ligne.
On se sent moins seul quand on peut compter sur Cegide. Avec le portail de gestion collaborative Cegide, entreprenez bien, bien entouré. Rendez-vous sur portail.cegide.com.
CAFPI, expert en crédit, recrute. Postuler dans un secteur qui se développe, c'est une question de bon sens. Vos plus belles opportunités de carrière vous attendent sur recrutement.cafpi.fr.
CAFPI, propulseur des talents, courtier en opération de banque et assurance, immatriculé à l'ORIAS.
Rejoignez-nous sur recrutement.cafpi.fr.
France Info Météo, avec Gauthier, fabricant français de meubles de rangement sur mesure pour toutes les pièces de la maison, à retrouver en magasin et sur gauthier.fr.
La météo, les prévisions de Météo France avec vous, Élodie Calac.
Un temps changeant et très doux demain près de la Manche. Le ciel restera bien encombré avec un peu de pluie et du vent. Même chose sur le Languedoc-Roussillon. Sur le reste du pays, ce sera plus lumineux avec de belles éclaircies, mais avec un ciel plus voilé par moments. Ce sera le cas en matinée sur le sud-ouest, le centre, le massif central, parfois avec une petite ondée. Et puis l'après-midi, ce voile de nuages épais glissera vers le nord-est. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. En revanche, le soleil reviendra de l'Aquitaine jusqu'à l'Auvergne. Les températures grimperont, 9 à 18 degrés le matin. L'après-midi, 17 à 24 degrés au nord, 22 à 29 au sud. Dimanche, il fera encore quelques degrés de plus, une moyenne de 23 degrés au nord, 25 au sud. Mais les pluies gagneront du terrain sur le nord-ouest et sur le nord.
sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Olivia Ferrandi.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Je suis sûre que ce prix Nobel nous donnera l'énergie nécessaire pour réaliser la paix dans notre région. La réaction ce soir du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui a reçu aujourd'hui donc le prestigieux prix Nobel de la paix. Le comité Nobel récompense ainsi sa politique de la main tendue avec l'Érythrée voisine 20 ans après la guerre, et alors que les rapports entre les deux pays restaient très tendus avec plusieurs poches de rébellion et des conflits larvés. Sébastien Baer.
Avant l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed en Éthiopie il y a 18 mois, le pays était en état de guerre avec son voisin. Un conflit pour des questions de limites de territoire qui, en 20 ans, a coûté la vie à 80 000 personnes. Inlassablement, Abiy Ahmed a œuvré au rapprochement, il a tendu la main aux frères ennemis. Tambour battant, il a rouvert les ambassades et les postes frontières, rétabli les liaisons aériennes et multiplié les rencontres avec ses homologues de l'Érythrée. Une démarche de réconciliation qui s'est concrétisée le 9 juillet 2018 avec la signature d'un accord de paix. Pour autant, il reste beaucoup à faire dans le pays avant une paix ferme et définitive, car la frontière entre l'Éthiopie et l'Érythrée s'est refermée et les accords commerciaux promis n'ont toujours pas été signés. Dans un communiqué, Amnesty International résume la situation. Ce prix Nobel est un encouragement, mais le travail d'Abiy Ahmed est loin d'être terminé.
Portant de grandes banderoles avec les photos des 80 journalistes, étudiants et citoyens arrêtés depuis le mois de juin, des milliers d'Algériens ont défilé aujourd'hui encore à Alger. Ils refusent la présidentielle organisée le 12 décembre, symbole pour eux du maintien du système politique hérité de l'indépendance de 1962. On ne rentrera pas chez nous, on ne votera pas tant que les règles du jeu seront dictées par les mêmes figures de la présidence Bouteflika, clamaient aujourd'hui les manifestants. Deux hommes et une femme restent hospitalisés ce soir à Manchester, mais leur vie n'est pas en danger. Ils ont été blessés par un individu dans un centre commercial de cette ville du nord de l'Angleterre aujourd'hui. L'homme était armé d'un couteau, il a été arrêté. Ses motivations restent confuses. Un trafic d'armes démantelé en France. Cette semaine, 400 armes, dont des fusils d'assaut, saisies au cours d'une centaine de perquisitions. C'est la conclusion d'une enquête qui avait débuté en février dernier, après la découverte d'un atelier suspect en Seine-et-Marne et l'arrestation de 4 trafiquants. Ils importaient des armes depuis les États-Unis et la Serbie. Deux semaines après l'incendie dans l'usine Lubrizol de Rouen, les ministres de la Santé, de l'Agriculture et de l'Écologie sont venus faire les comptes aujourd'hui. Le préjudice pour les 3000 agriculteurs concernés est estimé à 40 voire 50 millions d'euros, 4 millions de pertes pour les producteurs de lait. Le sport, le football, les Bleus sur le terrain de l'Islande dans un petit quart d'heure. Maintenant, la France, championne du monde, joue ce soir un match de qualification pour l'Euro 2020. Olivier Giroud sera titulaire, match à vivre en direct sur France Info. Et puis au Japon, après l'annulation de 2 matchs du mondial de rugby et le report de la séance d'essai du Grand Prix de Formule 1, les autorités prévoient les premiers effets du typhon la nuit prochaine à 2h du matin, heure française. L'agence météo du Japon parle de vents brutaux et d'une mer violente. France Info, 20h33, la suite des informés, c'est tout de suite.
20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés avec Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, avec Chloé Morin, politologue, directrice de projets internationaux chez Ipsos, avec Marie-Virginie Klein, vice-présidente de WILA, association de créatrices d'entreprises, avec Éric Delannoy, économiste et président fondateur du cabinet Tenzing. Rien ne semble vouloir arrêter l'offensive turque contre les forces kurdes au nord-est de la Syrie et Erdogan reste sourd aux injonctions de la communauté internationale. Bonsoir à vous, Mathieu Mandoloni.
Bonsoir Jean-François.
Envoyé spécial de France Info à la frontière turco-syrienne. Mathieu, vous vous trouvez à Urfa, c'est en Anatolie, après avoir passé la journée à Akçakale, une ville turque frontière en première ligne du conflit. Mathieu Mandoloni, les combats se poursuivent, hein.
Oui, exactement, comme en témoignent les hélicoptères qui sont passés au-dessus de nos têtes toute la journée, des hélicoptères équipés de lance-roquettes. Ils volaient à très basse altitude et sont évidemment là pour appuyer l'offensive de l'armée turque qui se poursuit. Des tirs d'artillerie, vous l'entendez, ont repris peu après la prière du vendredi. Des salves répétées qui visent l'autre côté de la frontière et les positions des forces kurdes. Elles dénoncent d'ailleurs un pilonnage intensif de l'armée turque. Et on voit d'ailleurs parfois une volute de fumée derrière cette frontière. C'est souvent le résultat des bombardements, mais aussi parfois des pneus qui sont brûlés par les combattants kurdes pour gêner le travail des drones et des avions adverses. En revanche, contrairement à hier, il n'y a pas eu ici, Jean-François, jusqu'à maintenant, de tirs de mortier dans ce village d'Akçakale, un village où l'on voit un peu partout sur les façades des maisons, des magasins ou sur les capots des voitures, des drapeaux rouges et blancs, des drapeaux turcs évidemment déployés pour marquer le soutien appuyé de la population au président Erdogan et à son opération militaire, car ici le village est en deuil après la mort de 3 civils hier, 3 victimes des bombardements kurdes qui ont frappé Akçakale en réponse à l'offensive de l'armée turque. Parmi ces victimes, un enfant de 9 mois dont le cercueil enveloppé du drapeau turc a été transporté de la mosquée jusqu'au cimetière, escorté par une foule en colère.
Oui Mathieu, alors c'est très impressionnant ce qu'on entend derrière vous effectivement. Je vous ai entendu sur France Info aujourd'hui, je vous ai écouté, vous disiez que les habitants turcs eh bien, soutenaient l'offensive et leur armée, et la presse internationale apparemment n'est pas toujours la bienvenue.
Oui, effectivement, la foule peut se montrer parfois agressive, notamment dans cette ville, dans ce petit village d'Akçakale, parce que, eh bien, les Occidentaux, c'est évidemment la voix anti-turque pour les habitants, la voix qui vient protester contre cette offensive et cette opération militaire et qui ne comprend pas l'armée turque. Cette foule, elle peut parfois se montrer un petit peu agressive. Ça a été le cas cet après-midi. Il y a eu des tensions avec une équipe de télévision occidentale, par exemple. La foule a commencé à l'entourer, à se montrer parfois un peu violente et virulente. Il faut toujours faire attention à une foule qui peut se montrer agressive, effectivement, et une foule qui a également scandé des slogans contre les Kurdes. abat le PKK, abat le PKK, ont répété plusieurs fois ces hommes, le point levé, le PKK. Jean-François, le parti des travailleurs kurdes, considéré comme une organisation terroriste ici par Ankara et dont les Kurdes syriens seraient complices, selon le président Erdogan, un discours auquel adhèrent totalement les habitants croisés ici à Akçakale, un village où il y a également beaucoup de réfugiés syriens. Beaucoup rêvent de rentrer d'ailleurs dans leur pays et sont persuadés que c'est cette opération militaire baptisée Source de paix, cette opération militaire du président turc qui le leur permettra.
Merci à vous Mathieu Mondoloni, merci pour ce direct, notre envoyé spécial à la frontière turque, direct assuré par Marc Garverne. Chloé Morin, autre réalité, celle du terrain, hein, ce que l'on entend là de ce récit très impressionnant de Mathieu Mondoloni, finalement il y a un soutien des populations locales à cette offensive turque.
Oui, d'ailleurs, le président turc a fait l'unanimité ou la quasi-unanimité autour de cette action et ça lui a permis de ressouder la classe politique autour de lui.
C'est un peu le but aussi, recherché par-delà l'opération militaire.
C'est un des buts. En tout cas, à ce stade, c'est une victoire politique, si ce n'est pas une victoire militaire encore, mais en tout cas une victoire politique. Il faut rappeler qu'il a connu un certain nombre de défaites politiques assez importantes ces derniers temps, puisqu'il avait perdu, son parti a perdu Istanbul, qui est tombé aux mains d'un de ses opposants. Et aujourd'hui, même ses opposants politiques approuvent l'action qui est menée. Et on a en face, en fait, au niveau français, la même unanimité, mais pour condamner. Donc, ouais. De ce point de vue-là, il y a deux blocs, on va dire, et même, je pense qu'au niveau européen, il y a une condamnation qui est assez unanime, mais une impuissance. Et cette impuissance à ce stade, je ne sais pas dans quelle mesure elle n'est pas liée au fait que le président turc a actionné une forme de dissuasion nucléaire, si je puis dire, en brandissant la menace de laisser partir ou d'envoyer en Europe les 3,6 millions de Syriens réfugiés en Turquie.
Oui, c'est le chiffre officiel du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés.
Bien sûr. Hein, on sait combien la question migratoire est déjà un problème en Europe, combien elle fragilise les différents gouvernements et divise l'Europe elle-même. Donc, on peut imaginer qu'une partie de l'hésitation européenne puisse être liée à cette menace-là.
Éric Delannoy, 100 000 civils hein, ce soir jetés sur les routes de l'Exode ce soir, donc c'est le chiffre de l'ONU. Hein. Rien n'arrêtera cette offensive.
Et une vingtaine de morts, a priori, déjà en 48 heures, donc c'est extrêmement grave. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet avec la Turquie qui est quand même aux portes de l'Europe. Hein. Faut-il considérer la Turquie comme un partenaire par rapport à ses coups de menton, ses montées de testostérone? Enfin, moi, je pense que cette opération-là, elle a tous les symptômes. Elle a tous les symptômes d'opérations de régime qui se radicalise. C'est-à-dire, en gros, rien que le nom, le printemps de la paix. Quand vous voyez qu'il y a une agressivité vis-à-vis des journalistes, quand vous voyez qu'effectivement, on joue l'ennemi extérieur pour pouvoir masquer les défaites intérieures. Quand vous voyez, enfin, tous les symptômes d'un régime qui se radicalise, on est quand même face à quelqu'un qui fait partie de l'OTAN, qui est aux portes de l'Europe, qui donc, du coup, peut user de son influence pour faire en sorte de ne pas avoir trop d'opposition. Bref, c'est un risque majeur de voir comment la géopolitique va se déplacer par rapport à la politique européenne. Et c'est là où, par rapport au sujet précédent sur l'Europe, on a besoin urgemment d'une Europe forte pour faire face à ça.
Allez, 20h40 sur France Info. Rappel de l'info avec Jules Dequis.
La préfecture de Seine-Maritime pourrait autoriser très rapidement la vente de lait, de fruits et de légumes. Deux semaines après l'incendie de l'usine Lubrizol, le préfet explique sur France Info qu'il attend de tout derniers résultats d'analyse. Toutes celles effectuées jusqu'à maintenant ne relèvent d'après lui rien d'anormal. Une semaine après l'attaque à la préfecture de police de Paris, on apprend que deux policiers soupçonnés de radicalisation se sont vus retirer leur arme de service cette semaine. L'un travaille à Paris, l'autre à Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine. Les deux fonctionnaires vont maintenant faire l'objet d'une enquête administrative de la police des polices. Les États-Unis et la Chine commencent à enterrer la hache de guerre commerciale. Après deux jours d'échanges entre responsables à Washington, les deux parties s'entendent sur un accord partiel qui doit encore être validé. Ils reportent notamment la hausse des droits de douane prévue mardi prochain. Donald Trump doit débuter dans les toutes prochaines minutes un entretien décisif avec le vice-premier ministre chinois. Le risque d'un nouvel attentat d'extrême droite reste très élevé en Allemagne, selon le ministre de l'Intérieur du pays. À tout moment, il faut s'attendre à une attaque motivée par l'antisémitisme, ajoute-t-il. Déclaration deux jours après l'attentat mené contre une synagogue à Halle. L'assaillant a tué deux personnes avant d'être arrêté. Et puis dans cinq minutes, c'est le début du match entre l'Islande et la France. Match de qualification à l'Euro 2020 de football. La France est première de son groupe, à égalité de points avec la Turquie et juste devant son adversaire du soir.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Éric Delamas, vous vous interrogez à l'instant sur cette Turquie qui, selon vous, se radicalise et s'éloigne de l'Europe. Il y a le risque également de voir s'évader les djihadistes du groupe terroriste État islamique détenu par les Kurdes. Pour Ismail Haki Musa, c'est l'ambassadeur de Turquie en France. Eh bien, ce sont les Kurdes qui seraient des terroristes. Il l'a martelé sur France Info ce matin.
On peut bombarder si ceux qui vous ont aidé, ceux qui nous ont aidés, entre guillemets, si ce sont des terroristes. La Turquie en a assez, en a marre. Nous voulons en finir avec le PKK et le PYT. C'est une lutte contre le PKK et contre Daesh en même temps. Il s'agit de parler, de communiquer, d'échanger avec nos amis français. L'hydre Daesh, nous savons ce que ça veut dire. Ils ont commis des attentats dans notre pays, ils en ont commis en France, ils en ont commis en Belgique, et nous sommes très conscients de ce que nous faisons.
Franck de Dieu, aidez-nous à comprendre ce que dit l'ambassadeur de Turquie.
Moi, je dis que quand Eric parle finalement de radicalité d'Erdogan, on le voit exprimé dans ce son, mais le problème, c'est qu'en face, il y a une sorte de flou. C'est-à-dire que face à cette volonté granitique turque, il y a une sorte de flou. Flou du côté, pardon de le dire, de Donald Trump qui dit qui lâche les Kurdes et puis qui dit « mais finalement, je n'ai pas tout à fait donné mon feu vert ». La représentante américaine à l'ONU qui dit « mais je refuse de condamner l'opération ». Les Européens qui sont encore quand même, j'ai l'impression, qui n'ont pas pris beaucoup d'initiatives hormis à l'ONU et qui sont, apeurés à l'idée de voir 3,6 millions de réfugiés gagner leur terre. Donc, ce qui est très inquiétant dans cette histoire est la Russie qui aussi joue un jeu en se disant nous allons être les médiateurs, mais qui ne veut pas véritablement lâcher son allié Bachar al-Assad. Donc, on se retrouve avec d'un côté, une forte détermination et en face, une immense flou des interrogations du côté occidental. Et ça, je trouve que c'est extrêmement inquiétant.
Alors, sur ces interrogations, je vous propose d'écouter ce que disait Amélie de Montchalin sur France Inter, la secrétaire d'État aux Affaires européennes, qui s'est voulue catégorique ce matin au micro de Nicolas Demorand sur d'éventuelles sanctions.
Évidemment que c'est sur la table. Vous imaginez bien qu'on ne va pas rester impuissant face à une situation qui non seulement est absolument choquant pour les civils qui sont soumis à ça, mais c'est aussi surtout choquant pour la stabilité de la région. Donc la condamnation, elle est ferme, mais elle n'est pas juste ferme dans les mots. On va agir. Vous imaginez bien qu'on ne va pas rester là autour de la table en se disant, on constate que c'est compliqué.
Marie-Virginie Klein, des déclarations assez musclées, mais au fond, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est un peu toute la différence à chaque fois.
Hein. Ouais, moi, je voudrais rebondir sur une expression qui a été utilisée
par Éric Delannoy
tout à l'heure par Éric Delannoy en parlant de montée de testostérone. Moi, je voudrais juste mettre sur le tapis là un sujet dont on ne parle pas du tout, ou en tout cas très peu. C'est le sujet des femmes, et des combattantes au sein de ces combattantes kurdes. Il y a entre 25 et 30% de femmes dans cette armée, et donc 25 et 30% qui se battent sur le terrain face à Daesh. Donc, c'est-à-dire que non seulement on trahit ceux qui ont été les remparts du monde libre face aux islamistes de Daesh, mais plus largement, on trahit aussi toutes ces femmes émancipées, ces combattantes qui ont joué un rôle extraordinaire, qui continuent de jouer un rôle extraordinaire. Depuis le début de la guerre kurde contre Daesh, il y a eu 36 000 tués ou blessés, dont 20% de femmes. Et sans cet apport supplémentaire de combattantes, on n'aurait jamais eu un rempart aussi puissant face à Daesh jusqu'à présent.
Oui, le sort de ces femmes qui combattent au sein de la milice kurde des unités de protection du peuple, Éric Delannoy ?
Ça va même au-delà de ça. Quand vous regardez l'histoire kurde, qui est une histoire un peu compliquée, qui est une cause qui n'a jamais réussi à trouver son traitement international parce qu'entre quatre pays, dans les montagnes, etc., les conditions de vie dans les montagnes de ce peuple-là a fait que mécaniquement, dans la répartition des tâches, les hommes et les femmes ont toujours été à égalité. À ce titre-là, c'est une des sociétés les plus progressives de l'islam, puisque la majorité est une majorité sunnite. Et on peut se poser la question si, en voulant, et on peut se poser la question jusqu'où il va aller, effectivement, Erdogan, est-ce qu'il va pas vouloir exterminer un peuple quelque part, hein, parce que, enfin, on peut se poser la question s'il porte pas atteinte aussi à une forme de progressisme de l'islam qu'il ne porte pas. Lui.
Chloé Morin, sur ce que disait Amélie de Montchalin ce matin chez nos amis de France Inter, qu'est-ce que peut faire la communauté internationale ?
Mais c'est bien la difficulté. Donc là, on voit bien que la rhétorique est extrêmement ferme. Il va falloir voir quels sont les actes qui suivent. On sait que c'est extrêmement difficile, ne serait-ce qu'au niveau européen, de se mettre d'accord sur des actions concertées, alors même que, même dans les cas où on sait dans quelle direction on veut tous aller, là, c'est ce que je disais tout à l'heure, je crains que la peur de la vague de réfugiés syriens que promet Erdogan ne paralyse les choses, ou en tout cas n'incite à la modération. Il faut quand même se souvenir que au niveau européen, on a 42% des gens qui disent qu'il faut entièrement fermer les frontières aux réfugiés et aux immigrés. Et un des éléments qu'on n'a peut-être pas voulu voir, c'est que en Turquie même, la proportion de personnes qui disent qu'il faut fermer les frontières aux réfugiés, c'est 59%. Donc c'est encore plus aigu que ça n'est en Europe. Et peut-être que c'est aussi une dimension que joue en politique intérieure le président turc, qui est de donner satisfaction aussi d'une certaine manière à la population vis-à-vis de ce rejet de l'étranger.
Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir, de cette situation, donc cette offensive turque au nord-est de la Syrie contre les forces kurdes et une certaine forme, pour l'instant, d'impuissance de la communauté internationale. Nous allons aborder à présent la crise qui secoue Renault depuis de longs mois et qui vient de connaître un nouvel épisode étonnant, avec l'éviction ce matin de Thierry Bolloré, le directeur général de la firme Los Angeles, dauphin de Carlos Ghosn, remplacé par la directrice financière Clotilde Delbos qui va assurer une forme d'intérim. Thierry Bolloré qui paye l'air Carlos Ghosn. Jean-Dominique Sénard, le président de Renault, a reçu le soutien, la confiance du gouvernement français. C'est ce qu'a déclaré Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, peu après l'annonce de l'éviction de Thierry Bolloré.
Nous, ce que nous souhaitons, c'est que l'Alliance entre dans une nouvelle étape avec une stratégie industrielle qui soit claire pour faire face à deux défis considérables, le véhicule autonome et le véhicule électrique. Et nous avons demandé avec le président de la République que Renault définisse une stratégie industrielle qui soit claire.
Marie-Virginie Klein, c'est assez étonnant. On parlait de ce groupe monde, franco-japonais, avec Nissan, ce géant automobile. Et là, on a l'impression que finalement, le gouvernement français est redevenu le patron de la régie Renault.
Oui, il est devenu le patron de la régie Renault.
Redevenu.
Et puis surtout, il essaye de cacher la véritable raison, en tout cas, que beaucoup d'économistes soupçonnent. C'est que Thierry Bolloré était très proche de Carlos Ghosn et que c'est pas du tout pour des raisons uniquement économiques qu'on veut essayer de le sortir de l'entreprise, c'est tout simplement pour fermer définitivement l'ère Ghosn.
Ah, c'est une petite vengeance, vous diriez, ce soir ? Ou non, c'est une page tournée ?
C'est la volonté de...
Non, mais c'est pas une vengeance. Je veux dire, il n'y a rien de pire dans une entreprise qui est en train de se restructurer que de mettre en place de la défiance. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, le groupe Nissan s'est restructuré en nommant un nouveau patron, Monsieur Uchida, qui est pour justement clore l'ère Ghosn. Ils ont viré toutes les personnes au Japon de ceux qui...
Vous dites que c'est une bonne mesure d'avoir remercié Monsieur
Uchida. C'était une mesure nécessaire et je pense que c'est une mesure qui était attendue. Donc, elle n'est pas du tout surprenante.
Oui, mais de mettre ça sur le plan de son bilan économique, de dire qu'on va passer vers la voiture autonome.
Sénard a dit que c'était exactement pas ça, et il a eu raison.
Oui, mais...
Jean-Dominique Sénard. Allez, on va entendre ce qu'en pense dans un instant Franck Dedieu et Chloé Morin. 20h50 sur France Info. Tout d'abord, ce rappel de l'info avec vous, Jules Dequisse.
On joue depuis 5 minutes entre l'Islande et la France. Match des éliminatoires à l'Euro 2020 de football. Et pour l'instant, il y a toujours 0-0. Aucun but marqué entre les deux équipes. À noter le remplacement de dernière minute d'N'Golo Kanté par Moussa Sissoko au milieu de terrain. Les États-Unis se disent prêts à activer des très fortes sanctions contre la Turquie pour la dissuader de son offensive militaire lancée il y a 3 jours contre les Kurdes dans le nord de la Syrie. Nous pouvons neutraliser l'économie turque si nécessaire, prévient le secrétaire d'État au Trésor. Mais pour l'instant, un général américain affirme que l'opération au sol est relativement limitée. Elle a tout de même fait une centaine de morts en 3 jours d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les Nations Unies déplorent déjà 100 000 déplacés. Abiy Ahmed se dit honoré et ravi. Il salue un prix donné à l'Afrique. Le Premier ministre éthiopien reçoit le prix Nobel de la paix. Cela fait un an et demi qu'il est au pouvoir et qu'il œuvre avec succès au rapprochement avec l'Érythrée, pays voisin mais ennemi. Des luttes territoriales ont fait des milliers de morts ces dernières années. La police britannique interroge toujours l'auteur de l'attaque au couteau à Manchester. À la mi-journée, il a frappé plusieurs clients d'un centre commercial. On déplore 3 blessés graves dont la vie n'est pas en danger. Les autorités soupçonnent un acte terroriste. Légère baisse du nombre de morts sur la route. Au mois dernier, en France métropolitaine, 9 morts de moins par rapport à septembre de l'année dernière. 313 personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la route.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés, Jean-François Aquili.
Franck de Dieu, l'État français détient 15% de Renault, c'est le principal actionnaire, enfin c'est le plus important, c'est pas la régie Renault quand même.
15,01, c'est important parce que c'est un peu plus que Nissan, et à ce titre-là, c'est le principal actionnaire, il n'est pas majoritaire, mais c'est le principal actionnaire, et il est quand même bien normal que dans une société, le principal actionnaire ait son mot à dire.
Mais c'est l'État qui définit la stratégie automobile de Renault
Là, il ne s'agit pas de définir la stratégie, mais attendez, quand on est propriétaire, pour le coup, je vais être très capitaliste. Quand on est propriétaire de parts et qu'on est majoritaire, on a le pouvoir. Et je crois que l'État n'a pas suffisamment joué son rôle au cours de l'ère Ghosn, pendant laquelle il y a eu, j'ai noté des chiffres, entre 2008 et 2018, je ne veux pas assommer vos auditeurs de chiffres, mais la France, les salariés français ont baissé de 11 000 personnes. Parallèlement, dans les pays émergents, plus 52 000 personnes. Autrement dit, l'État a décidé de reprendre un peu la main dans cette histoire. Il l'a fait en refusant l'alliance avec Fiat Chrysler. Oui. On était quand même, ça devenait extrêmement, je crois, inquiétant pour les actifs. Et puis là, chiche, pourquoi les administrateurs représentant l'État autour de table de Renault ne s'allient pas avec les administrateurs représentant des salariés? Au passage, vous noterez qu'il y a eu un rapport il y a quelques mois, Sénart-Nota, le même Sénart, qui était favorable à ce qu'on fasse, qu'on intègre au sein du conseil d'administration des représentants de salariés. Autrement dit, j'ai envie de vous dire, chiche, alliance entre administrateurs salariés, oui c'est prévu mais dans des proportions un peu moindres, salariés, alliance des administrateurs salariés et des administrateurs de l'État pour qu'on investisse dans la voiture autonome et électrique sur des sites français. C'est ça pour moi, tourner la page, ouais. Ghosn, c'est
mais,
pas...
Chloé Morin, du temps de Carlos Ghosn, je ne vais pas me faire l'avocat de Carlos Ghosn, mais Renault était leader dans ce pays, il me semble que ça marchait quand même Renault-Nissan.
Oui, alors c'est une des ambiguïtés de ces entreprises dont l'État est actionnaire, parce que l'État est censé représenter l'intérêt national, et on peut quand même se demander si pour un certain nombre de fleurons, certes français, mais enfin mondiaux, l'intérêt de l'entreprise est toujours aligné avec l'intérêt du oui. pays. Parce que, en l'occurrence, Renault, c'est 50 000 emplois en France. Donc c'est une part importante, mais ça n'est pas la majorité de l'ensemble des emplois de Renault dans le monde, par exemple. On sait que la question de l'emploi est extrêmement sensible dans l'opinion publique française, donc que l'État et le gouvernement vont y prêter une attention particulière. Est-ce que pour autant, par exemple, c'est l'intérêt de l'entreprise en elle-même que de garder l'essentiel de ses emplois en France? Je ne sais pas. Mais ça pose une question sur le rôle de l'État.
Mais cette question se pose dans les mêmes termes lorsque l'actionnaire est privé. Alors, lorsque l'actionnaire est, c'est l'État, eh bien, il fait ses choix en fonction de l'intérêt de la nation et de la République.
Éric Delannoy, quand vous entendez le ministre tout à l'heure, Bruno Le Maire, de dicter un petit peu la marche à venir de Renault, donner les priorités de Renault, est-ce que l'État aujourd'hui, ce n'est pas pour contester Bruno Le Maire, mais globalement, est-ce que l'État a vocation aujourd'hui à dicter, au fond, la marche industrielle de grandes firmes nationales qui sont quasiment privatisées?
D'abord, l'État, traditionnellement, je suis désolé, dans les années précédentes, a été un très mauvais actionnaire. Ça a été un très mauvais actionnaire dans de nombreuses entreprises. Le pire du pire étant le Crédit Lyonnais.
Donc, est le coup du Crédit Lyonnais.
On nous le fait à chaque fois.
Et Lehman Brothers, et Dexia.
Et puis vous avez rappelé vous-même. Vous avez.
C'était
Dexia,
privé.
C'est parce qu'il y avait un actionnaire.
Ah, d'accord.
Un actionnaire. Ah bah oui, effectivement, Dexia.
C'est la faute.
Donc Renault. Enfin, vous avez vous-même cité depuis 10 ans la faillite de la gouvernance de Renault, qui n'est pas tellement là où on va mettre les usines, mais qui est surtout la possibilité d'avoir une gouvernance concurrence qui soit juste, avec un contrôle de ce que font les patrons, etc., etc. Donc, ce que Bruno Le Maire a rappelé, il a juste rappelé des priorités qui sont des priorités industrielles. Il n'a pas édicté ce qu'il fallait faire. Je veux dire, aujourd'hui, le fait de d'évincer Bolloré n'est pas une décision de l'État.
Vous dites, Éric Delannoy, qu'il faut que l'État conserve ses 15%, 0,01, c'est ça, oui.
Moi, je suis pas, encore une fois, je suis pas convaincu que je suis convaincu que l'État est un très mauvais actionnaire, donc je suis pas convaincu qu'il faut que.
Il faut garder cette part.
Maintenant, je veux dire, c'est pas le défi principal. Le défi principal, c'est de faire en sorte que cette alliance fonctionne. Jean-Dominique Sénard est venu là pour ça. Et donc là, pour moi, ce n'est pas une crise. Ce qui se passe avec Bolloré, c'est une tentative de sortie de crise, définitive. Donc, à ce titre-là, Jean-Dominique Sénard devait faire un bilan. Il devait arriver pour poser ses valises. Il n'a pas la réputation, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, Franck, que d'être un tueur. Il a mené Michelin avec une espèce de collégialité, en mettant un modèle d'entreprise qui est aujourd'hui une référence dans le monde. Il a l'intention de faire la même chose avec Renault, mais ça prendra du temps. Et donc, il fallait tourner la page Ghosn.
Marie-Vierge Giclin, vous avez la sensation aujourd'hui que ce groupe va peut-être devoir se remettre à fabriquer des automobiles et à parler d'autre chose, c'est ça, non?
C'est clair.
Oui. Bah oui, enfin, c'est quand même un des seuls constructeurs automobiles à pas avoir eu de profit warning là dans les derniers mois, donc je trouve que sacrifier comment dire une bonne gestion de Renault sur l'autel de la dégonisation, moi je trouve que c'est trop visible.
Allez, vos avis sont divergents sur la question. Il est temps de conclure avec vous, Franck De Dieu, puisque vous allez nous livrer la une de Marianne.
Oui, alors on traite justement d'une entreprise publique, mais qui va peut-être pas le rester si ça continue comme ça, parce qu'il y a un projet qui s'appelle le projet Hercule et qui vise à démanteler EDF et tout cela. Et tout cela est très problématique à la fois pour les 130 000 agents français, mais également pour les consommateurs qui verront probablement leur tarif d'électricité augmenter.
Et le titre, c'est le démantèlement EDF a commencé. C'est la une de Marianne. Merci à vous, Franck De Dieu. Merci Chloé Morin, Marie-Virginie Klein et Éric Delannoy d'avoir participé à ces informés de France Info. Nous retrouvons demain soir avec plaisir, avec bonheur, Neila Latrousse pour les informés sur France Info. Merci, bonne soirée à tous.